Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente.
Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Bonjour à tous, bienvenue dans Vos Animaux. Alors, au programme cette semaine, comment faire accepter un nouveau chien à votre toutou qui est là depuis des années. Avec notre éducatrice canine Chloé Fesch, nous vous donnerons des conseils pour éviter qu'il se regarde de travers. 0826 300 300 pour vos questions et pour vos témoignages si vous avez déjà connu cette situation ou si vous vous apprêtez à la vivre. Côté faune sauvage, focus ce matin sur l'ours. Sa présence dans les Pyrénées ne cesse de faire débat. Il y a 15 jours, un randonneur s'est fait poursuivre par une femelle ours. Alors, nous allons faire le point sur la situation des ours en France. Enfin, dans C'est votre histoire, nous avons souhaité mettre en lumière une excellente initiative, la création d'une journée mondiale de lutte contre l'abandon. C'est vrai que la veille des départs des grandes vacances, il était crucial d'en parler car près de 100 000 animaux sont abandonnés chaque année en France. Et figurez-vous que cette initiative est française. Merci à vous d'écouter Vos Animaux. 0826 300 300. On vous attend au standard.
Sud Radio, Vos Animaux et vous.
Alors, votre fidèle compagnon partage votre vie depuis plusieurs années, mais voilà que vous prend l'envie d'avoir un deuxième chien. Drôle d'idée, doit se dire le premier. Vous êtes dans ce cas de figure où vous avez déjà vécu cette situation, n'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300. Et pour nous éclairer, j'ai le plaisir de recevoir Chloé Fesch, notre référente éducatrice canine. Bonjour Chloé.
Bonjour.
Alors Chloé, comment finalement transformer ce changement en quelque chose de positif? Comment faire en sorte que chacun des deux chiens vive bien cette situation? Et puis peut-être faut-il commencer par se poser les bonnes questions. À votre avis, à quoi doit-on réfléchir avant de prendre un deuxième chien à la maison?
Alors en effet, il faut vraiment se poser les bonnes questions. La première question, c'est de savoir si votre chien actuel est sociable. Parce qu'en fait, si vous avez qu'un seul chien et qu'il n'a pas l'habitude de côtoyer souvent ses congénères, il est possible qu'il ait un peu perdu, on va dire, le langage canin, comment s'adapter à ses congénères et compagnie. Donc, il faut vraiment s'assurer que votre chien ait l'habitude de parler chien, d'en rencontrer souvent, que ça se passe bien. Ça, c'est vraiment essentiel.
Allez-y, continuez, Chloé.
Non. Ensuite, la deuxième indication, c'est d'adopter un chien qui serait compatible avec votre chien présent. Alors, je pense notamment au cas typique, si vous avez actuellement un mâle, qui plus est non castré, il est préférable, si vous adoptez un deuxième chien, de partir sur une femelle.
Il vaut mieux qu'elle soit stérilisée, en revanche.
Exactement.
Ça évitera non souhaitées.
Exactement, c'est tout à fait vrai. Après, voilà, deux mâles non castrés, ça peut être aussi un problème de compatibilité en grandissant.
Alors, donc voilà, il faut faire attention à ces choses-là. Puisque vous parlez justement du choix du deuxième chien, est-ce qu'il y a des choses à éviter en termes d'âge, par exemple? Est-ce que ces deux chiens doivent être absolument similaires? Si on a un vieux chien, est-ce qu'il faut impérativement que le deuxième soit un peu âgé? Ou est-ce qu'au contraire, un plus jeune va lui redonner un peu de tonus ou lui casser les pieds tout au long de la journée, ce qui ne serait pas une bonne chose? Est-ce que la race a une importance par rapport à la race du premier? Est-ce que la taille a une importance? Voilà, toutes ces petites choses de comparaison finalement entre les deux chiens.
Alors, c'est vraiment du cas par cas. Il faut se dire qu'il n'y a pas de solution miracle. C'est vrai que dans certains cas, quand vous avez un chien un petit peu vieillissant, prendre un jeune chien, ça le rebooste. Dans d'autres cas, ça le fatigue. Donc là, c'est vraiment l'état de votre chien. Quel âge a votre chien âgé? Et voilà, savoir un peu comment il va réagir à ça, tout dépend de votre animal. Ensuite, au niveau des gabarits, c'est vrai que c'est bien de prendre des chiens qui ont à peu près le même gabarit. Parce que notamment dans les séances de jeu et compagnie, ça se passe souvent mieux. Je prends l'exemple, si vous avez un dog allemand, vous lui mettez un chihuahua. Si le dog allemand n'a pas trop d'habitude...
Quand même les deux extrêmes.
Oui, tout à fait. Mais voilà, si le gros chien n'a pas l'habitude de jouer avec des petits chiens, des fois, il peut y avoir des petites bousculades non prévues. Voilà.
Bien sûr.
Mais tout dépend. Tout dépend si votre chien est habitué à côtoyer plein de races différentes. Là, pour le coup, peu importe. Mais il faut vraiment faire attention à ce que votre premier chien a déjà vécu, qu'il connaît déjà ou non, et c'est là-dessus qu'on va plutôt baser notre choix.
Anaïs a composé le 0826 300 300 et veut vous poser des questions. Bonjour Anaïs.
Bonjour.
Bonjour Anaïs. Vous avez combien de chiens, Anaïs?
J'ai deux chiens.
Bon, et alors, comment ça se passe?
Alors, je les ai eus, ils ont tous les deux 4 ans et 4 ans et demi, dont à peu près 6 mois de différence.
D'accord.
Je les ai élevés en même temps, de la même manière. Et pourtant,
quand vous dites que vous les avez élevés, c'est-à-dire qu'ils sont nés chez vous ou...
Non, je les ai eus...
Vous les avez éduqués en même temps et de la même manière, d'accord.
Oui, tout à fait. Mais pourtant, ils ont deux caractères complètement différents. J'en ai un qui est plutôt extraverti et l'autre introverti. Et du coup, ils se chamaillent beaucoup.
Ah, et c'est ça qui vous pose souci, bien sûr. Chloé, ouais. est-ce qu'Anaïs a des solutions pour faire en sorte que ces deux chiens s'entendent bien ou mieux, en tout cas ?
Alors, ils se chamaillent sur quoi ? Quand ils mangent, quand ils jouent, c'est sur quel... Et ils chamaillent, c'est-à-dire ils se bagarrent ?
Oui, ils peuvent montrer les dents.
Ok. Et dans quel contexte, souvent, qu'est-ce qui peut déclencher ces comportements de grognement, surtout ?
Bah, pour tout et rien. Pour la nourriture, pour...
ça, c'est pas rien, hein, je peux vous dire.
pour les câlins, il faut absolument que je fasse attention de les caresser en même temps. Voilà.
D'accord. Et ils vont juste grogner ou il peut y avoir conflit vraiment ?
Je les sépare avant, donc...
D'accord. Alors, ce qui est important, en fait, dans la cohabitation entre deux chiens, c'est de les laisser s'exprimer aussi. Ça peut paraître étrange, mais en fait, un chien qui va grogner sur son compagnon de vie, on va dire, il fait des réglages, voilà, il communique, et c'est pas forcément quelque chose de grave qui doit être sanctionné.
Vous voulez dire que c'est un peu comme nous, de temps en temps, quand on élève la voix par rapport à notre conjoint. Bon, moi, ça ne m'arrive jamais, hein. Si, c'est vrai, en plus, ne rigolez pas dans le studio de Sud Radio.
Non, c'est très bien. Mais c'est exactement ça. En fait, on a le droit, quand on vit en communauté, de dire, voilà, ça me plaît plus ou moins. Et si on nous empêche de s'exprimer à ce moment-là, c'est là que souvent les conflits deviennent plus violents. Voilà. Donc, entre chiens, ça peut créer des fois des cas où on ne peut même plus les faire vivre ensemble. Parce qu'à chaque fois, on les a séparés, on les a empêchés finalement, de s'entendre et de communiquer en tant que chien. Et ils passent à des niveaux d'agressivité plus élevés. Donc, s'ils ont une bonne communication entre eux et qu'ils se respectent, on va dire, dans le fait qu'il y en a un qui accepte telle ou telle chose et que ça s'organise comme ça, moins vous intervenez, mieux c'est. Après, s'il y a vraiment une bagarre, un conflit, et que ça peut être au cas où il peut y avoir des blessures physiques, etc., là, évidemment, c'est tout un autre travail à entreprendre. Et c'est peut-être bien de faire appel à un éducateur qui pourrait voir vos chiens et voir comment ça se passe, la relation que vous avez avec eux et compagnie.
Il y a quand même des moments clés, Chloé. Il y a le moment des repas.
Tout à fait.
Et puis les moments d'échange avec le maître, finalement, c'est exactement ce que nous décrit Anaïs, hein.
C'est ça. Le maître doit vraiment faire arbitre. Il doit pouvoir, en fait, caresser un chien. Ou, en fait, il doit connaître ses chiens. Il y a des chiens qui vont vouloir gérer les contacts. D'autres, ils vont être plutôt axés sur la gestion de la nourriture. Et il faut savoir adapter le mode de vie par rapport à ses chiens. Donc, par exemple, dans les moments de jeu, des fois, il est bien de séparer les chiens pour pouvoir jouer pleinement avec un des deux chiens, pour pas finalement créer un conflit inutile qui pourrait être évité avec une gestion.
Surtout dans les moments de jeu où il y a une forte excitation et c'est là où ça dérape.
Exactement, c'est tout à fait ça.
Bon, ben Anaïs, voilà quelques clés pour essayer de faire en sorte que vos toutous se réconcilient. Mais bon, visiblement, ça se passe quand même pas si mal que ça.
Oui, oui. Ben, merci beaucoup. J'ai essayé de prendre en compte ces conseils.
On vous embrasse. On vous souhaite un excellent week-end. Allez, on marque courte pause et on se retrouve juste après, toujours en compagnie de Chloé Fesch, notre éducatrice canine, pour parler de l'arrivée d'un deuxième chien dans un foyer qui compte déjà un animal.
Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Sud Radio, vos animaux et vous.
Votre chien qui partage votre vie depuis un bon moment déjà vous apporte tellement de satisfaction que vous vous demandez si vous n'en prendriez pas un deuxième. Alors comment vivre heureux avec plusieurs chiens? Surtout comment accueillir le nouveau venu? On en parle ce matin en compagnie de Chloé Fesch, éducatrice canine. Chloé, est-ce que ça va de soi de vivre avec plusieurs chiens, surtout pour les chiens d'ailleurs ?
Eh bien oui, tout à fait, parce que c'est vrai qu'un chien, ça reste un animal social qui a besoin de côtoyer ses congénères et ça fait partie de ses besoins de pouvoir lui permettre de jouer régulièrement, d'être en contact avec son espèce. C'est vraiment essentiel pour son équilibre.
Donc finalement, à part des cas particuliers liés à des problèmes spécifiques ou à des personnalités spécifiques, normalement, les chiens sont faits pour vivre ensemble.
Tout à fait. Après, c'est vrai qu'il y a des chiens qui sont plus indépendants, qui vont moins aimer, on va dire, ce contact, ou en tout cas, ne pas forcément le montrer, mais ça reste important pour eux. Et ou les chiens, j'ai envie de dire, qui ont eu un problème de développement, qui ont été séparés trop tôt de la mère, ils n'auront pas forcément appris à bien côtoyer leurs congénères. Donc, c'est des cas bien spécifiques. Mais un chien équilibré doit pouvoir s'entendre avec, on va dire, des chiens avec qui il va être compatible. Après, voilà, les problèmes d'hormones peuvent créer des petits conflits, mais sinon, c'est censé être quelque chose d'important, même pour eux et pour leur équilibre.
Est-ce que ça limite aussi l'ennui de son chien qui est tout seul, qui vous attend un peu? Bon, bien sûr, on sort son chien, on ne le laisse pas tout seul du matin jusqu'au soir, mais il passe quand même plusieurs heures tout seul dans la journée, souvent. Mm-hmm. Est-ce que ça lui permet d'avoir justement une vie plus gaie?
Mais tout à fait. C'est vrai qu'au niveau des chiens qui vivent seuls, donc ça, on l'avait déjà dit, hein, mais je le rappelle, il faut vraiment promener son animal tous les jours, même si on a un jardin. Et le fait d'avoir un second chien va lui permettre de se dépenser, de s'occuper, de jouer. Et ça, c'est essentiel pour son bien-être au quotidien. Donc oui, dans tous les cas, la vie avec plusieurs chiens peut être un peu plus compliquée à gérer des fois. Et c'est vrai qu'il faut aussi se demander si on est vraiment prêt à adopter un second chien, parce que c'est d'autres contraintes, hein, d'avoir deux chiens.
Alors c'est quoi mais plus compliqué, justement? Est-ce qu'il faut vraiment plus de temps? Est-ce qu'il faut vraiment deux fois plus de temps quand on a deux chiens? C'est pas sûr.
Alors non, il ne faut pas forcément deux fois plus de temps parce qu'on peut les promener ensemble et ça, il n'y a pas de souci. Après, c'est quand même important d'avoir du temps pour chacun des chiens. Il faut éviter, quand on a deux chiens, de les laisser tout le temps ensemble à deux. Et ça peut inciter une forme d'anxiété quand ils vont être séparés l'un de l'autre. Donc c'est aussi essentiel de travailler, de penser en tout cas, à pouvoir aller en promener qu'un ou aller promener que l'autre de temps en temps pour créer cette habituation aussi à être seul, hein. Parce que le jour où l'un des deux part, il ne faut pas que celui qui reste le vit vraiment très très mal. Donc ça, c'est important. Mais sinon, au quotidien, avoir deux chiens n'est pas forcément bon, c'est un peu plus de temps, mais ce n'est pas le double du temps, non. Après, c'est plutôt au niveau pratique. Quand on a deux chiens, si vous êtes seul à les promener, si c'est des gros gabarits, deux chiens en laisse, il faut prendre le temps de les éduquer parce que ça devient vite ingérable.
Ouais, dans tous les cas, Chloé, quand même. Aussi. Vous êtes d'accord avec
dans
ça?
Dans tous les cas, on est d'accord. Ah oui, tout à fait. Mais il faut penser...
La voiture, oui, ça c'est un vrai problème. Ou les transports, quand on doit prendre... Exactement. Des transports autres que la voiture, ça complique encore la tâche. Déjà avec un chien c'est compliqué, mais alors avec deux, n'en parlons pas, n'est-ce pas?
Et le budget, et le budget aussi, hein, deux chiens c'est deux fois plus de frais vétérinaires, de nourriture, etc. Donc c'est aussi un coût supplémentaire, donc il faut y penser avant d'adopter pour ne pas se faire surprendre et ne pas pouvoir gérer complètement le second chien.
C'est bien de le rappeler effectivement. J'aimerais que vous nous parliez d'un moment important qui est le temps du repas. Comment est-ce qu'on gère ce moment du repas quand on a deux chiens? Alors, si tout va bien, j'imagine qu'on peut les mettre à manger au même moment, dans la même pièce. Mais quand ça ne se passe pas très bien, on fait comment?
Alors, moi, déjà, je recommande que le repas ne soit pas laissé en libre service. Donc, le mieux, c'est que le moment du repas soit un temps dans la journée vraiment défini. S'il y a un vrai problème d'incompatibilité, le chien se batte quand il mange à proximité parce qu'il ne se sent pas suffisamment à l'aise, on peut tout à fait les séparer parce que la gamelle, on va la laisser 15-20 minutes à disposition et on l'enlèvera. Donc, pendant ces 15-20 minutes de repas, les chiens peuvent être dans deux pièces séparées. Après, pour leur apprendre à partager, parce que là, c'est vraiment une histoire de partage et de cohabitation, alors, ça fait avant qu'il y ait un problème, c'est vraiment pour habituer. Un petit conseil qui peut être intéressant, surtout si vous avez un jardin, c'est de délivrer une poignée ou un petit bol de friandises ou de croquettes dans le jardin au sol. Et les chiens vont aller sentir, chercher les croquettes, ils vont se focaliser sur cette activité et ils vont s'habituer finalement à avoir le copain qui est à côté, qui fait la même activité sans que ça le prive lui d'avoir ses croquettes. Mmh. Vous voyez ? Ça peut être un bon exercice à mettre en place pour leur apprendre à partager la nourriture avec une zone suffisamment étendue. Et après, c'est surtout ça. Mais si c'est vraiment un problème de...
Et quand il y a des bagarres, on fait quoi?
Alors, quand il y a des bagarres, alors là, c'est vraiment le cas où les chiens se battent vraiment, hein, où il faut séparer parce que l'un des deux risque d'être blessé. Déjà, l'attitude du maître, c'est de ne pas crier. Parce que très souvent, on va se mettre en pression, on va crier sur les chiens. Et ça, la plupart des chiens se disent, le maître est pas content, il met de l'énervement et ça ajoute de l'agressivité. Donc, attention à ne pas crier, c'est vraiment important. Et si vous devez séparer, alors il faut vraiment aussi penser à votre sécurité. On met pas les mains
On met pas les mains au milieu d'une bagarre, c'est essentiel, c'est vrai qu'on ne le rappellera jamais assez, vous vous faites mordre à coup sûr.
Voilà, et d'ailleurs sans que votre chien ait voulu vous mordre,
bien sûr.
Même pas volontairement.
Mais n'empêche que c'est souvent les mains qui trinquent dans ce cas-là.
Exactement, voilà. Et après, ça c'est un conseil qu'on peut donner, c'est s'il y a vraiment un chien qui mord l'autre, plutôt que de mettre les mains au niveau de la gueule, c'est vraiment de lever les pattes arrière de celui qui mord. Parce qu'en fait, en levant les pattes arrière, on lui enlève ses appuis. Et donc, en cas d'urgence,
donc il va lâcher.
Bien d'autre, un jet d'eau. Voilà, il va plus facilement lâcher. Mais attention derrière, s'il faut vraiment connaître son chien, avoir l'habitude de ce genre de manipulation. Donc, éventuellement, faire appel à un éducateur canin qui vous formerait sur ces techniques, sur ce langage, parce que c'est vraiment quelque chose dans l'agressivité, quand quand deux chiens se battent.
Sinon, vous parliez rapidement du jet d'eau, et c'est vrai que ça, c'est assez pratique. Bon, il faut avoir un jet d'eau sous la main.
Il faut l'avoir sous la main.
Et si on a en appartement, c'est un peu plus compliqué, je vous l'accorde.
C'est ça. Et en tout cas, le conseil, c'est de ne pas arriver à cette situation. Hein. Donc, bien de la sûr, prévention avant tout. Et ça, c'est l'idéal à souhaiter à tout le monde, bien entendu.
Un dernier conseil, mais qui est très important et que j'aimerais qu'on développe un peu, Chloé, c'est l'organisation de la première rencontre. Comment doit-on faire ?
Alors moi, je recommande toujours que la première rencontre se fasse en balade, en extérieur, si possible complètement, les chiens complètement détachés, s'ils ont un bon rappel, etc. C'est la meilleure façon de faire et d'enlever tout ce qui est jouets, nourriture, tout ce qui peut déclencher un conflit lors du premier contact. Voilà. Donc on évite vraiment de lâcher les chiens dans le jardin avec tous les jouets à disposition et la gamelle de croquettes qui traîne dans un coin.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi c'est important de le faire avec des chiens détachés ?
Alors tout simplement parce que très souvent quand les chiens sont en laisse, il y a en fait chez eux une sorte de tension qui va se créer. Le fait que la laisse soit présente, voire même tendue, ça va les irriter et en fait ils ne peuvent pas être libres de leur mouvement. Donc pour certains chiens, ils vont pas se sentir à l'aise de pas pouvoir s'éloigner, pouvoir reculer, pouvoir communiquer librement et ça va déclencher leur agressivité. Voilà. Donc très souvent on déclenche un comportement agressif parce que les chiens en laisse se tendent, s'irritent plus que détachés.
Et une fois que cette première rencontre a été faite justement à l'extérieur, on arrive à la maison et on laisse faire les chiens ? Ou est-ce qu'il faut mettre un d'un côté, l'autre d'un autre côté ?
Disons que si la balade s'est bien passée, ils se sont bien dépensés, on peut envisager de les laisser rentrer librement. Moins on va intervenir, mieux c'est dans tous les cas. Après, si ça nécessite, parce que vous savez que votre chien a besoin, ça marche mieux si vous le canalisez, si vous lui demandez de rester ou si vous lui demandez d'aller à sa place. N'hésitez pas, vous êtes la meilleure personne pour connaître votre chien. Mais le conseil général, c'est de laisser les chiens communiquer librement et le plus sans intervention, le plus possible sans votre intervention, de quelle qu'elle soit d'ailleurs.
Et une dernière, une dernière question, Chloé. Est-ce qu'il y a une capacité d'imitation chez les chiens qui peut être intéressante en termes d'éducation ? C'est-à-dire que si on a déjà un chien mature, qui est bien éduqué, et qu'on arrive avec un jeune chien qui, lui, n'a pas appris tout ce qu'on a envie qu'il apprenne, est-ce que le fait de voir son copain un peu senior, qui sait s'asseoir, qui sait revenir quand on l'appelle, etc., est-ce que ça permet d'aller plus vite sur l'apprentissage avec le petit nouveau ?
Tout à fait. En fait, le chien, il apprend de trois façons et l'une de ces façons, c'est l'imitation. Donc ça joue énormément. Par contre, attention, parce que l'imitation, ça marche pour les bons comportements comme pour les bêtises. Donc si votre premier chien sait ouvrir les portes ou des choses comme
ça... C'est vrai qu'ils sont d'ailleurs souvent assez axés sur l'imitation de la bêtise.
Voilà. Donc oui, en tout cas, c'est vrai que les chiens entre eux s'imitent et dans l'apprentissage, ça joue énormément. Oui.
Eh bien, merci infiniment, Chloé. Merci. Je répète que vous êtes éducatrice canine. Vous êtes notre référente, d'ailleurs, en matière d'éducation canine. Vos conseils sont toujours extrêmement précieux. Et grâce à vous, on sait d'abord que vivre avec un chien, c'est un bonheur absolu, qu'il est possible de vivre avec deux chiens, mais qu'il faut quand même prendre quelques précautions d'usage. Merci, Chloé. Voilà. Courte pause, dans vos animaux. Oui, ça fait rire, Gaspard. C'est bien, je croyais que vous dormiez, Gaspard.
Pas du tout, je suis très attentif.
Courte pause et on se retrouve dans quelques minutes.
Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente
Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Merci à vous d'écouter Sud Radio, merci d'écouter vos animaux. Alors au programme, dans la suite de cette émission, notre séquence à l'état sauvage, un sujet qui fait toujours et éternellement débat, la présence des ours dans les Pyrénées. Et puis coup de projecteur sur une très belle initiative, la création d'une journée mondiale de lutte contre l'abandon, et c'est important d'en parler aujourd'hui qui est un jour de grand départ en vacances.
Mais pour l'heure, les questions veto qui vous sont posées, Natacha.
Sud Radio, vos animaux. Question veto.
Et cette semaine, c'est Frédéric qui vous écrit sur la page Facebook de Sud Radio. J'ai un chien de 3 mois qui a une diarrhée. Quoi faire pour l'aider ?
Eh bien, écoutez, j'espère vraiment que Frédéric ne va pas attendre ma réponse et qu'il est déjà chez le vétérinaire, parce qu'une diarrhée chez un chien de 3 mois, ça peut être extrêmement grave. Il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer la diarrhée, mais notamment des maladies virales comme la parvovirose, qui sont des maladies d'abord extrêmement contagieuses et puis surtout gravissimes chez les chiots. Donc si Frédéric nous écoute, je vous conseille une chose, Frédéric, vous prenez votre chiot, vous prenez votre voiture et vous allez chez votre vétérinaire en urgence, parce que bien sûr, on va traiter les symptômes, donc la diarrhée. il va falloir regarder s'il y a d'autres symptômes associés, peut-être réhydrater le chiot avec une perfusion et surtout l'avoir sous surveillance. Donc vous qui nous écoutez, auditeurs de Sud Radio et de vos animaux, si vous avez un chiot et que ce chiot un jour manifeste une diarrhée, surtout n'attendez pas, c'est vraiment essentiel. Chez les chiots et chez les animaux âgés, c'est la même chose, il faut vraiment tout de suite intervenir.
Si comme Frédéric, vous voulez poser vos questions à Natacha Harris ou ses invités, n'hésitez pas, 0826 300 300. On vous attend au standard de Sud Radio ou par mail à l'adresse jeparticipe@sudradio.fr.
Sud Radio, vos animaux à l'état sauvage.
Et dans notre séquence à l'état sauvage, on a choisi de vous parler ou de vous reparler des ours dans les Pyrénées. Alors c'est vrai que ce sujet est un sujet forcément polémique. Il y a les pour qui sont archi pour et les contre qui sont archi contre. Généralement, c'est jamais gris sur ce sujet. C'est toujours soit très blanc, soit très noir. Pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Rigaud, qui est notre spécialiste de la faune sauvage. Pierre, alors avant de revenir à un fait récent d'actualité avec un randonneur qui s'est retrouvé face à une ours et qui s'est fait poursuivre quand même par cette ours, j'aimerais déjà qu'on fasse un petit état des lieux. On en est où de la présence des ours dans les Pyrénées? Est-ce qu'on sait à peu près combien il y en a et grosso modo dans quel secteur ils se situent?
Il y a une quarantaine d'ours dans les Pyrénées, alors ce qui est très très bien par rapport à la poignée d'ours qu'il y avait il y a encore une dizaine ou une vingtaine d'années, puisque rappelez-vous, les ours avaient failli complètement disparaître des Pyrénées quand a été tué Canel en 2004,
bien sûr,
la dernière ours autochtone qui avait laissé un petit canelito qui vit encore. Et la plupart des ours, de ces 40 ours aujourd'hui, sont dans les Pyrénées centrales. Et puis deux ours, maintenant quatre, puisque deux ours femelles ont été réintroduites l'année dernière, ce qui fait qu'il y a quatre ours dans la partie ouest, dans le Béarn, et puis le reste dans les Pyrénées centrales. Donc c'est à la fois assez positif puisque la population de ces ours augmente peu à peu, très lentement. Et puis à la fois, il faut remettre ça dans le contexte d'un massif pyrénéen où il pourrait y avoir de la place pour plusieurs centaines d'ours.
Bien sûr, parce que ça a été le cas à une époque, c'était avant que l'ours soit chassé de nos montagnes. Les ours qui sont aujourd'hui présents sont des ours qui ont été donc réintroduits, qui sont des ours slovènes. On dit que l'ours slovène est plus grand, plus fort que l'ours pyrénéen, pas du tout.
Non, ce sont les mêmes. D'ailleurs, autrefois, les populations étaient continues, c'est-à-dire il n'y avait pas seulement des ours dans les Pyrénées et puis dans d'autres massifs d'Europe. Il y avait des ours dans les plaines, partout en France et partout en Europe. Et puis, les organismes qui ont introduit ces ours à partir de Slovénie ont fait au plus simple et au plus évident, c'est-à-dire ils ne viennent pas de très loin, ils sont très semblables et ils vivent dans des milieux qui se ressemblent beaucoup entre les forêts slovènes et les forêts pyrénéennes.
Pourquoi est-ce qu'en France, ça pose tant de problèmes d'avoir des ours? On a l'impression qu'il y a des pays, je ne vais pas généraliser non plus, parce que là encore, ça ne peut pas être tout blanc ou tout noir, mais il y a des pays où les ours ont leur place.
Ah, il est certain que si vous allez, par exemple, comme ça m'arrive de temps en temps pour le plaisir, dans les Carpates, en Roumanie, dans un massif de moyenne montagne, où il y a plusieurs milliers d'ours, pour un territoire qui est un petit peu plus grand que les Pyrénées, mais pas tant que ça, la situation est totalement différente. Donc, si on compare, par exemple, les Carpates avec 4000 ours et les Pyrénées avec 40 ours, la situation est plus tendue dans les Pyrénées que dans les Carpates.
Donc, parce qu'il y a plus de présence humaine, plus d'agriculture, plus d'élevage?
Non, quand on va dans ces pays d'Europe centrale notamment, il y a des agriculteurs, il y a des gens partout. Simplement, c'est assez frappant. Il m'arrive de demander aux gens là-bas, qu'est-ce que vous pensez des ours? Pour eux, c'est comme si on leur parlait des chevreuils, des cerfs, des renards. Vous voyez, l'ours fait partie du paysage.
Sauf que l'ours est un prédateur.
Bien sûr, mais en tout cas, il y a des gens qui acceptent des populations dans des pays où on accepte la présence de l'ours sans le vénérer, sans le trouver formidable, mais simplement parce que les ours font partie de la forêt.
Et vous voulez dire qu'on a peut-être un peu perdu cette culture de l'ours, hein?
Oui. C'est frappant de voir que quand on se promène dans une forêt, là-bas par exemple, on trouve, sans les voir tous les jours, on trouve des empreintes d'ours partout et ça ne choque personne. Ici en France, on a perdu l'habitude d'avoir des ours et il y a beaucoup de tensions qui sont liées au fait que les prédateurs naturels sont quand même pas très aimés, que ce soit les ours et les loups. Bien sûr, ça pose des soucis de cohabitation, mais il y a quand même un rejet qui est assez radical de la part de certains.
Alain veut intervenir sur le sujet, 0826 300 300. Bonjour Alain.
Bonjour,
oui,
Alain.
Bonjour, merci de me laisser antenne, mais j'avoue que je viens d'entendre quelques mensonges d'État là qui me
coupent. Eh ben, on vous écoute, on vous donne la parole, Alain.
Qui me coupe complètement la parole. Vous rendez compte, 4000 ours dans les Pyrénées, mais
Non, on parlait des Carpates.
Non, dans les Carpates, oui, mais c'est plus petit que les Pyrénées, nous a dit votre interlocuteur. Puis je sais qu'ils sont.
Non, il vous a pas dit ça.
Ah bon, j'ai cru entendre ça. Alors,
non, non,
il
a dit que c'était plus grand que les Pyrénées, d'accord. Mais que la proportion d'ours là-bas était d'accord, beaucoup d'accord. plus grande.
Mais écoutez, peut-être que je ne suis pas très malin, vous savez.
Ah non, on ne dit pas ça, Alain, non, pas du tout. Qu'est-ce que vous souhaitiez nous dire?
Ce que je souhaitais vous dire, bon, d'abord, ce que je viens d'entendre est complètement loufoque, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, quoi qu'on dise, ça s'appelle, les ours et les loups s'appellent des grands prédateurs. Déjà, le vocabulaire n'est pas très glorieux ni très flatteur. Ça, c'est la première chose. Et a fortiori, quand on dit que ce sont des grands. Ce que je veux dire, c'est qu'il est impossible de faire cohabiter des ours et des loups, des moutons, des élevages, etc.
Vous travaillez dans le domaine de l'élevage, Alain ?
Oui, je suis éleveur depuis que je suis né, même avant.
Vous habitez où ?
J'habite à Montferrier, dans l'Ariège, tout près des Monts d'Olme. Et je fais partie de ces gens des Pyrénées qui ont la boule au ventre tous les jours, c'est à la mode cette expression. Moi j'ai un cauchemar de toutes les nuits, parce que tous les matins quand on se lève, quand nos bergers se lèvent, ils ont devant eux, et c'est le cas déjà depuis le 1er juin, des scènes horribles d'animaux dépecés, d'animaux égorgés, d'animaux éventrés. Et ça c'est quelque chose d'inhumain, d'ingérable. Quand on nous parle du bien-être animal, je ne suis pas contre les ours en tant que tels. Ce sont des animaux comme les autres. Simplement, il est difficile aujourd'hui de les mélanger avec les humains. Alors, on peut toujours rêver. On peut rêver de ce genre de choses.
Comment vous faites-vous, Alain, pour préserver votre troupeau, puisqu'on a compris que vous étiez éleveur?
Oui, comment je fais?
Vous avez un troupeau de moutons?
J'ai un troupeau de moutons, j'ai des vaches aussi,
oui.
Et j'ai aussi des chevaux de merin. C'est tout ça, c'est en sélection.
D'accord.
Et on les élève avec beaucoup d'amour et on n'a pas envie de les faire croquer par quelques ours qui n'amènent rien. Alors on nous parle beaucoup de biodiversité, d'entretien de l'espace, de toutes ces choses-là qui sont aujourd'hui sont à la mode et l'écologie. Dieu sait si ça nous parle, nous les éleveurs et les paysans.
Oui, c'est ça, parce que vous êtes sur le terrain.
Mais c'est un mot qui est tout à fait galvaudé. Je serais heureux que, qu'on me dise. Hormis la présence, effectivement, d'un animal supplémentaire, ce qu'apporte l'ours et le loup dans la biodiversité. Ce qu'apporte le pastoralisme dans la biodiversité, je vais vous le dire. Et depuis des millénaires, depuis le roi mage, depuis, vous savez, l'étoile du berger et tout le reste, depuis donc de nombreux siècles, ce sont les troupeaux et le pastoralisme qui entretiennent nos montagnes. Et croyez-moi, elles sont belles, nos montagnes. Elles sont belles et accueillantes. Elles sont, moi, rien que mon dolme, j'ai compté plus de 500 fleurs. Là, d'ici 15 jours, avant le 14 juillet, il va y avoir des fleurs partout. C'est magnifique, mais c'est pas magnifique comme ça partout dans les Pyrénées ou dans les Alpes ou dans les massifs français. Et si on a cette beauté de paysage, c'est grâce au pastoralisme. Et aujourd'hui, le pastoralisme va être détruit. Dans 5 ans, madame, on entend, l'autre jour, le ministre a eu cette... je ne sais pas comment il faut l'appeler, je ne trouve pas de nom. Il a osé dire devant le Sénat, devant tous les sénateurs réunis, qu'il n'y avait qu'une dizaine d'ours dans les Pyrénées. J'avais madame la préfète de l'Ariège, il n'y a pas très longtemps chez moi, il y a 3 semaines à peu près, pour essayer de venir nous expliquer, moi aussi d'ailleurs à elle, et ça a été très gentil de sa part de venir, elle nous avouait qu'il y avait au moins 50 ours rien que dans l'Ariège. Et monsieur De Rugy, ministre d'État, vous rendez compte, ministre d'État, qui s'adresse aux sénateurs, et notamment à la sénatrice des Hautes-Pyrénées, qui lui dit « Madame, il n'y a qu'une dizaine d'ours dans les Pyrénées, il faut les sauvegarder. » Mais c'est honteux d'employer des choses pareilles, de mentir de cette manière-là. Moi, je ne suis qu'un petit paysan, vous savez, mais on m'a appris la probité. Elle n'y est plus. Elle n'y est plus dans tous ces pro-ours. Ils vous racontent n'importe quoi, madame. Ils racontent n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est impossible de faire cohabiter nos élevages en France avec les prédateurs. Pourquoi ? Parce que c'est à la fois très grand et très petit, les Pyrénées. Parce que s'il y a des spécificités dans le pastoralisme, parce qu'il y a des choses que l'on ne peut pas gérer de cette manière-là. Imaginez-vous que si ça pouvait se gérer autrement...
Est-ce que, par exemple, le travail avec des chiens, comme les patous, ça peut aider justement les éleveurs?
Certes, les patous ont eu toute leur vie cette fonction, mais pas contre les grands prédateurs. Et puis il faut savoir quand même que les grands prédateurs, et ça tout le monde le sait, y compris ceux qui sont pour les ours, ils le savent très bien, ils s'adaptent.
Bien sûr.
Ils s'adaptent. Alors... comme tous les animaux sauvages, ils s'adaptent. Ça, c'est la première chose. Ils sont un moyen de dissuasion, comme ça, mais qui est tout à fait temporaire. Sauf que l'ours ou le loup, quand il constate qu'il y a des patous, par exemple, sur un troupeau, des patous sur l'autre troupeau et des patous sur un troisième troupeau, eh bien, quand il a fait le tour, il se dit, eh bien, quoi qu'il se passe, mon instinct d'animal sauvage, et c'est normal, ou la mère qui défend son petit, c'est tout à fait normal aussi, que ce soit un ours, une vache, un mouton ou un humain. Mm-hmm. Donc, au bout d'un moment, il s'adapte et il n'en a plus rien à faire qu'il y ait des patous.
Alors,
la deuxième chose que je voudrais vous dire par rapport aux patous, madame, il ne faut pas l'oublier, la montagne n'appartient pas aux éleveurs, elle n'appartient pas aux écologistes qui veulent nous mettre des ours, elle appartient à tout le monde, elle appartient aussi aux randonneurs. Dans 5 ans, madame, si ça continue comme ça dans les Pyrénées que je connais bien, dans l'Ariège en particulier, on n'aura plus la place pour un touriste ou pour un randonneur. Mmh. Ça sera fini. Ça en sera fini parce que, premièrement, il y a une grande dangerosité par rapport au nombre d'ours qui sont en train d'arriver et de naître. Et deuxièmement, si vous mettez un patou, le patou, il est là pour surveiller son troupeau et pour interdire à quiconque.
Les randonneurs y compris, bien sûr.
Les randonneurs y compris.
Je vais... Malheureusement, vous coupez la parole, mais vous avez remarqué que quand même, la parole aussi des personnes qui ont des arguments contre les ours est entendue dans cette émission. Merci pour votre témoignage. On sent bien que vous êtes très touché par la présence des ours dans les Pyrénées. On sent bien que c'est un cri du cœur que vous avez voulu lancer aujourd'hui. Et vous êtes la bienvenue sur cette antenne. Merci à vous, Alain. Je voudrais repasser la parole à Pierre Rigaud, qui bien sûr a un avis différent. Et on est là pour donner des avis qui ne sont pas forcément tous en phase les uns avec les autres, surtout sur ce genre de sujet.
Je ne vais même pas donner un avis, juste quelques données de base pour que le débat repose sur des choses qui soient vérifiées. Il y a à peu près 200 ou 300 brebis qui sont tuées par des ours chaque année dans les Pyrénées. Dans le même temps, il y en a plusieurs milliers, peut-être 20 000 qui disparaissent à cause soit de chiens, soit de dérochements, soit de pertes dues aux orages.
C'est vrai que souvent on accuse les ours ou les loups, et il y a aussi des chiens qui peuvent être responsables des morts d'animaux.
S'agissant des ours, c'est particulièrement vrai. Il faut rappeler que les ours, certes, peuvent tuer des mammifères, ça arrive, c'est une réalité, mais 3/4 de leur alimentation aux ours, ce sont des plantes et des fruits. Donc ça, c'est parfaitement étudié. Et il y a quelques cas où, en effet, des ours, dans des situations, malheureusement, s'en prennent à des brebis. Mais dans les Pyrénées, il y a des bergers qui prennent la parole ouvertement pour dire qu'ils arrivent à cohabiter avec des ours, non sans difficulté. Mais il faut rappeler que tous les moyens pour que les bergers et les éleveurs se protègent, tous ces moyens sont subventionnés. C'est-à-dire qu'on permet aux éleveurs d'acheter des bergers, de payer le salaire des bergers, d'acheter des clôtures, d'acheter des chiens de protection, de la nourriture de ces chiens, et qu'il y a un accompagnement qui est peut-être insuffisant, mais qui existe tout de même. Donc les éleveurs et les bergers ne sont pas laissés à l'abandon, et que globalement, la présence des ours profite pas seulement aux écolos de Bobo de Paris, comme on entend dire à chaque fois, mais profite aux gens sur place qui sont majoritairement aussi favorables aux ours, et profite aux randonneurs aussi qui viennent dans les Pyrénées, parce que c'est un endroit sauvage magnifique où on peut espérer voir des ours, aller sur les traces des ours.
Bon, merci beaucoup Pierre Rigaud. De toute façon, c'est un sujet où on n'arrivera pas à mettre tout le monde d'accord, on le sait, mais c'est important dans cette émission dédiée aux animaux, d'écouter à la fois la parole des éleveurs qui aiment leurs animaux, et d'écouter la parole de ceux qui défendent la présence des animaux sauvages sur notre territoire et notamment des grands prédateurs. C'est aussi ça la biodiversité, il est important de le rappeler. Allez, courte pause, ça va calmer les esprits et on se retrouve juste après.
Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Vos animaux sur Sud Radio, c'est votre histoire.
Et aujourd'hui, puisque nous sommes à la veille des grands départs en vacances de l'été, j'ai le plaisir de recevoir Katia Renard, rédactrice en chef du magazine 30 millions d'amis, mais surtout la personne qui est à l'origine d'une magnifique initiative, c'est la Journée mondiale de lutte contre les abandons des animaux de compagnie. Et vous êtes venue en compagnie d'une représentante d'une association. Bonjour Fabienne Roumet. Vous êtes de l'association Chat des rues et vous êtes aussi en première ligne face aux abandons. Alors d'abord, Katia, les abandons en France, on parle de 100 000 animaux abandonnés environ chaque année. On n'a pas des chiffres très très précis.
Non,
en fait.
Justement, en fait, on parle de 100 000 parce que c'est des recensements qui sont effectués. C'est plus en fait, on va dire, des points de sondage qui sont réalisés par le ministère de l'Agriculture dans un certain nombre de refuges et de fourrières et de refuges. Mais en fait, ça ne représente qu'entre 15 on va on va dire 15 et 20% de toutes les structures. Mais ça ne, donc effectivement, après, il y a une projection qui
est faite. On fait une extrapolation. Voilà. Et voilà.
Et donc, on estime que c'est 100 000 abandonnés. C'est-à-dire qu'il y a 200 000 animaux qui sont recensés, mais dans ces 200 000, il y en a qui sont perdus effectivement par leurs propriétaires et qui regagnent leur foyer. Mais sur ces... donc, il reste 100 000 abandonnés.
Ce qui est colossal. Hein.
C'est énorme. Et c'est forcément un minima des estimations. Parce qu'évidemment, ça ne dit rien des animaux qui sont encore dans les rues, dans les campagnes, dans les forêts. Ça ne dit rien de ceux qui sont recueillis par des particuliers. Et qui parfois en recueille, là encore ce matin, j'ai une personne qui fait des pensions et qui me dit j'ai 3 chiens que j'ai récupérés et qui n'entrent pas forcément dans les comptabilités. Donc en fait, pour certaines associations, c'est quasiment le double, voire le triple en réalité.
Alors on l'a bien compris, on n'a pas de chiffres très précis. Est-ce que vous avez l'impression que ça va en s'améliorant ou est-ce qu'au contraire, on a de plus en plus d'abandon ?
Alors moi j'ai un recul,
vous qui êtes 13 une ans. Femme de terrain.
Voilà, ça fait 13 ans que je suis dans le secteur, on va dire. Je ne vois pas d'amélioration, je ne vois pas d'aggravation.
Je craignais un petit peu cette réponse.
Voilà, je ne vois pas d'aggravation. Je ne vois pas d'amélioration. Moi, j'ai lu qu'il y a 40 ans ou 30 ans, c'était plutôt 200 000 abandonnés. Honnêtement, j'en sais rien, parce qu'il n'y a pas de recensement.
Voilà,
il n'y a pas plus de recensement. Ce qu'on sait, en tout cas, ce qui est sûr, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un pic avant l'été et durant l'été.
Oui, puisque c'est quoi ? Un tiers des abandons, grosso modo, pendant l'été ?
Voilà, c'est 60 000. On estime que c'est 60 000. Oui. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que les refuges et les associations crient à l'aide, on va dire, à partir d'aujourd'hui. Là, le mois de juin, c'est la période où ça a commencé avec les chatons qui sont nés au printemps, qui sont sevrés. Donc là, c'est les premiers appels. Et puis, tout au long de l'été, ça va aller crescendo et ça retombe à la fin.
Alors, le cas des chatons, on va en parler dans quelques minutes en compagnie de Fabienne Roumet de l'association Chat des Rues. Mais avec vous, Katia, j'aimerais que vous m'expliquiez... cette journée mondiale de lutte contre l'abandon, c'est une idée formidable. On se dit, mais pourquoi ça n'existe pas depuis longtemps, en fait?
En fait, c'est un peu la réflexion que je me suis faite. Quand j'ai décidé de lancer ça, j'ai cherché, en fait. Je me suis dit, forcément, ça existe.
Forcément, ça existe.
Hein. Et en fait, non, ça n'existe pas. Donc, et pourquoi je l'ai voulu mondial? Parce qu'effectivement...
Parce que le fléau est mondial, j'imagine.
Voilà,
hein.
Parce qu'en fait, quand vous allez un peu dans nos refuges et dans nos associations, vous vous rendez compte qu'on récupère des chiens de Roumanie. On récupère des lévriers d'Espagne, les galgos, donc ils sont aussi abandonnés dans d'autres circonstances, pour d'autres raisons.
Oui, mais eux, c'est pas à cause des vacances.
Voilà, clairement. C'est pas à cause des vacances, mais l'abandon, ça a plusieurs réalités, en fait, c'est pas que les vacances. Vous avez aussi des chiens qu'on récupère de Thaïlande, du Vietnam, qui sont récupérés, en fait, ils ont échappé à la boucherie, tout simplement. Vous avez aussi, aux États-Unis, j'ai entendu qu'il y avait 3,5 millions, 4 millions de chats et de chiens qui sont euthanasiés par an, c'est énorme. Donc des chiens qui ne trouvent pas de deuxième débouché, c'est-à-dire une deuxième famille, et qui sont tués parce qu'il n'y a pas de place pour eux. Ce qu'on a voulu, c'est qu'elle appartienne à tout le monde et que tout le monde s'en empare pour ce jour-là, le 29 juin, parce que c'est le dernier samedi du mois de juin, celui
donc
qui précède le départ. Exactement. Parce qu'on pense tous à la plage, à la montagne, aux vacances. Mais en fait, la réalité de toute cette joie derrière, c'est que lors des vacances, ça sonne aussi le glas de l'abandon pour beaucoup d'animaux.
Pascal veut intervenir sur le sujet. Bonjour Pascal.
Bonjour Pascal.
Bonjour Natacha. Ça va ?
Ça va super bien. On vous entend avec un petit écho quand même, Pascal.
Là, je suis dehors. Hein. De toute façon, justement, je promène mon chien en ce moment. Bon. Voilà, c'était pour le sujet de l'abandon. Moi, je trouve ça ridicule. Les gens, s'ils prennent des chiens pour les abandonner après, c'est inutile. Et sur une autoroute, c'est encore pire, quoi. Alors voilà, moi je dis que les lois devraient être plus sévères avec ces genres de personnes.
On est tous d'accord, Pascal, pour dire ça, effectivement.
Parce qu'un chien, c'est quand même un bon compagnon, quoi. C'est quelqu'un... Moi, j'ai mon chien, sans lui, je serais perdu, quoi. Puis bon, il y a aussi le problème des hôtels, qui ne trouvent pas, qui n'acceptent pas les animaux.
C'est
ça vaudrait peut-être aussi que les gens s'entendent dessus, quoi. Parce que bon, quand on a envie d'aller dans une région, puis qu'on ne trouve pas le lieu pour s'héberger, qui accepte les chiens, c'est quand même embêtant, quoi.
Eh bien, vous avez entièrement raison, Pascal. Je pense qu'on partage tous votre avis hein, dans ce studio.
Ce qu'il faut dire, c'est que les professionnels, quand même, en tout cas de l'hébergement des vacances, acceptent, ils ont pris en compte cette réalité quand même. Donc, il y a de plus en plus de structures.
Et puis aujourd'hui, on les référence aussi, ceux
qui acceptent. Exactement. Donc, il y a quand même possibilité de se renseigner.
Il y a le Club Oscar. Allez, on leur fait un voilà, petit coup de pub au passage, Oscar, parce que c'est puis, une belle initiative aussi.
À 30 millions d'amis, on recense aussi les plages. Tous les ans, on appelle toutes les plages de France pour savoir si les chiens sont autorisés. Et donc, il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place pour donner
l'information. En gros, quand on est le maître d'un chien ou d'un chat et qu'on veut trouver des solutions pour les vacances, on en trouve.
Oui, on en trouve.
Qu'est-ce qui explique que des gens abandonnent encore leurs animaux ?
Alors, il y a des raisons, on va dire...
Et merci Pascal, excusez-moi, j'ai oublié de vous remercier pour votre appel. On vous souhaite bien sûr un excellent week-end.
Oui, à vous aussi, à votre équipe.
On vous embrasse.
Alors on va dire qu'il y a des raisons objectives. Hein. Parfois, c'est des accidents de la vie. Parfois, c'est une entrée dans une structure de retraite qui n'accepte pas les chiens. Donc, il y a des raisons, on va dire, objectives. Un divorce, enfin bon, même si c'est moins objectif. Hein. Mais pourquoi on abandonne ? Peut-être parce que l'accès à l'animal déjà est extrêmement facile. Donc on en prend un peu, c'est un effet coup de cœur, caprice, et on ne mesure pas. Peut-être qu'il n'y a pas une responsabilité, une responsabilisation qui est prise en conscience très facilement. Parfois, on cède à un enfant et un animal, il appartient à l'adulte, pas à l'enfant. Peut-être aussi parce qu'on ne fait pas stériliser et donc là, on se retrouve débordé.
Alors là, c'est le cas des chats, notamment. Voilà, vous me tendez une perche énorme et justement, je voulais passer la parole à Fabienne Roumet qui représente l'association Chats des Rues. Fabienne, les chats errants, les chats non stérilisés, c'est votre quotidien ?
Oui, c'est effectivement le quotidien de l'association. Alors nous, on est une association qui est basée en Île-de-France, donc on travaille beaucoup avec des collectivités locales, avec des villes, avec des privés aussi, des entreprises qui viennent de nous demander d'intervenir, là où ils ont des colonies de chats qui s'installent et qui se développent. Alors l'essentiel des chats qui prolifèrent en fait dans l'espace public, ce sont des animaux qui ne sont pas stérilisés, donc qui ont déporté. La difficulté.
Ça veut dire que ce sont des chats que vous trapez.
Voilà, on les capture, on les soigne, on les identifie on les stérilise. Ensuite, on a deux solutions. Soit on cherche à les faire adopter, c'est évidemment la priorité. Mais il y en a beaucoup comme ils sont nés.
Ils sont sauvages.
Ils sont sauvages, donc ils sont pas socialisables. Donc on les remet sur site. On a à peu près 60% des chats qu'on trappe, qu'on remet sur site, souvent après soin, parce qu'on a certains chats qui nous arrivent en piteux état, donc il faut des semaines, voire deux mois de soins et de suivi sanitaire avant de les remettre sur site. Et ensuite, il faut les suivre. Et quand on a, là, toutes les villes où nous, on a pu avoir des contrats dans la durée et de suivre les populations de chats, on stabilise très très bien.
Ça, c'est quand même un beau message d'espoir, juste parce qu'on est toujours pressé par le temps dans cette émission. Là, on est en pleine période des chatons. J'imagine que vous recherchez des familles d'accueil.
Alors, nous, on a des familles... Je voudrais juste faire une toute petite remarque. Nous, depuis au moins 2-3 ans, on a un accroissement des taux d'abandon. Par rapport, par exemple, l'année dernière, 2018, par rapport à 2017, ça a été un accroissement de 100%. On est en train voir, il y a plus en plus de chats, et c'est souvent des chattes qui sont abandonnées avec des petits, donc on suppose... qu'elles viennent pas toutes seules avec leurs cartons et leurs bébés. Donc on suppose que c'est souvent des chats qui n'ont pas été stérilisés par les propriétaires, qui lorsqu'ils se retrouvent avec une portée, ils abandonnent tout le monde, ils les amènent au refuge et on se retrouve
d'où
à gérer ça.
D'où l'importance de la stérilisation, vous faites bien de parler. D'ailleurs, on va revenir sur cette thématique prochainement dans vos animaux, parce que c'est très très important. Stériliser vos chats, les mâles, les femelles, on stérilise tout le monde, ça évite une reproduction à tout va, et donc forcément des animaux malheureux. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci à vous, merci à Katia Renard du magazine 30 millions d'amis et surtout créatrice de cette journée mondiale de lutte contre l'abandon. Merci à vous Fabienne Roumet, je rappelle le nom de votre association Chats des Rues. On vous embrasse, merci. On vous souhaite un excellent week-end.
Sud Radio, vos animaux.
Avec Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com.